Donc l'objectif de la discussion, c'était déjà de comprendre pourquoi la biodiversité, hein. Certains d'entre vous ont mentionné le marché carbone, hein. Il y a des phénomènes de mode, mais derrière ça, il y a quand même des enjeux de société, des enjeux climatiques qu'on a vécu il y a une dizaine de jours, avec les 3 jours de petites canicules, enfin petites par son durée, mais assez impactantes. Et comprendre, hein, on parle beaucoup de la nature, de la végétation en milieu urbain pour des questions de confort. Hein, je pense qu'on est c'est plus agréable de discuter ici à Londres que si on était en plein soleil. Mais il y a pas mal de ce qu'on appelle les services écosystémiques auxquels on pense peut-être pas aussi facilement, aussi visiblement, hein, mais qui apportent confort, qui apporte sécurité et qui permettent aussi, quand on est de l'autre côté, justement, dans la gestion publique, de raisonner des budgets. Hein. Il peut être peut-être plus intéressant de gérer des espaces verts que gérer de l'imperméabilisation, hein, surtout quand ensuite il faut redétruire cette imperméabilisation pour reconstruire, si j'ai bien compris, ce qui va être le cas de l'Intermarché et de son parking. J'imagine le prix du mètre carré pour reconditionner, on va dire, des espaces urbains comme cela. Et le point de discussion tournait justement sur la compréhension des différents services. Hein, il y a les services, on va dire, classiques dits d'approvisionnement. C'est de la nature qu'on prend nos aliments, nos médicaments. Hein, pour 3 quarts des médicaments qu'on consomme, ils ont une origine naturelle. Et donc, ils sont liés aussi à cette biodiversité. L'érosion de la biodiversité fait qu'on a de moins accès aussi à ces services, ou alors à des coûts plus en plus chers. Et un autre vecteur qui est très important en Bretagne, notre rocker est parti, qui c'était les algues vertes, qui sont en fait une conséquence, en Bretagne, hein, de l'usage historique des nitrates, enfin des engrais qui provoquent les nitrates. Mais la question de l'eau est aussi primordiale quand on pense à la diversité, donc la gestion des milieux aquatiques. C'est pas un hasard, justement, si la Bretagne, aujourd'hui, c'est la région où on paye l'eau du robinet la plus chère de France. C'est justement parce que les moyens nécessaires aujourd'hui pour traiter cette eau, c'est aussi aujourd'hui, hein, malgré les problèmes comme les algues vertes, c'est aujourd'hui aussi la région en Bretagne, hein, pour vous rassurer, où l'eau potable est quand même de la plus haute qualité. Mais ça a un coût, et ce coût, on le paye. Si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, c'était Saint-Malo qui a gagné la palme de l'eau la plus chère de France. Hein, et en moyenne, la région la plus chère, c'est ici sur la Bretagne. Donc ça, c'est aussi la conséquence du dérèglement, justement, des équilibres naturels, des équilibres écologiques, qu'on pense peut-être pas aussi facilement, aussi visuellement. Et puis, que ce soit des canicules comme il y a eu une quinzaine de jours, que ce soit quelques semaines auparavant, quand on a eu un épisode aussi, vendredi, là où on a eu une tempête de grêle, enfin, je sais qu'au moins ici, nous sur le quartier, l'eau est rentrée même dans l'école, hein, au de ruisseau. Donc ça aussi, c'est de la gestion au niveau de l'équilibre de la biodiversité dans les espaces urbains, puisque de plus en plus, et même si je trouve qu'à Chantepie, on est encore un peu privilégié entre l'équilibre des zones vertes et les zones grises imperméabilisées. Plus j'imperméabilise, plus compliqué cette gestion des espaces verts et de la biodiversité. Donc les points de discussion, hein, de provocation, on va dire, quand on a discuté avec le collectif au départ, c'était justement, en fonction de la prise de conscience, quelles sont les actions qu'on peut mener au niveau individuel. Hein, donc dans les témoignages, pareil, on a eu des exemples sur les mares, sur les potagers, sur la restructuration des haies, qui ont effectivement un impact, à l'échelle, on va dire, de son terrain, de sa parcelle quand on est agriculteur. Mais notamment, j'imagine aussi, quand on est en agriculture biologique, on se rend compte aussi vite des limites. Quand, par exemple, tous nos voisins autour restent en agriculture de conservation, ou quand nos voisins maintiennent 100% de leur haie en tuya, etc. Il y a des limites, on va dire, à la capacité individuelle de provoquer ce changement, qui fait qu'il est aussi nécessaire de commencer à réfléchir et de planifier au niveau collectif. Et donc le collectif à plusieurs échelles, ça peut être à l'échelle d'un collectif associatif, d'un quartier. Hein, l'exemple que Solène mentionnait des mares a un impact qui nécessite d'un point de vue biodiversité l'échelle collective, puisque quand on parle de biodiversité, d'écologie, un peu comme nous on parle aussi d'habitat, hein, et la gestion des habitats pour toutes les espèces, on va dire, vivantes, elles ne sont pas si différentes que pour nous. On est pour des besoins de déplacement, pour des besoins d'alimentation, pour des besoins de reproduction. Toutes les espèces ont besoin d'espaces de refuge différents en fonction des saisons. Et donc le fait d'avoir une intégration, on va dire, dans l'espace au niveau d'une commune, comme je le disais tout à l'heure, entre aussi l'urbain et le rural, permet de potentialiser, au moins de récupérer ce potentiel de biodiversité. Et si on veut gérer un impact demain justement sur ces questions de biodiversité, il est pertinent et aussi pédagogique de s'investir d'un point de vue individuel, mais il est encore plus pertinent de pouvoir articuler des actions individuelles au niveau d'un collectif. Et ce deuxième niveau de collectif intègre aussi justement la gestion publique quand on veut par exemple s'occuper d'espaces verts comme ici la mare, hein, on aura l'occasion d'en parler, hein, mais visuellement on voit assez rapidement la quantité d'activités finalement assez simples qui peuvent être mises en place pour récupérer une biodiversité dans un espace qui est encore, on va dire, privilégié, puisque c'est pas toutes les communes qui ont encore des espaces verts comme on peut trouver à Chantepie, hein, qui soit, on va dire, continental ou aquatique. Un autre point aussi très important, il a été mentionné aussi dans certains cas, non seulement les potagers mais les vergers, hein. Il y a déjà des expériences, hein, vous les connaissez mieux que moi, à Chantepie, mais dans la perspective d'engagement, on va dire futur, que ce soit au niveau individuel ou collectif, notamment si on part, on va dire, sur de l'agro-biodiversité, donc, hein, pour produire des aliments médicinales ou alimentaires. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, puisque c'est déjà pas évident de produire des aliments sains en zone rurale, et je pense que vous imaginez qu'en zone urbaine c'est beaucoup plus compliqué en fonction justement de la perte, hein, de la qualité, on va dire, des sols. Et c'est peut-être le dernier point que je vais aborder, c'est que bien souvent quand on discute, que ce soit biodiversité ou autre, on a tendance à discuter de ce que l'on visualise. Alors que, et ça c'est encore plus important dans la biodiversité, la très grande magie de, la très grande majorité de la biodiversité, en fait, elle est sous nos pieds. C'est dans le sol. Et donc si on veut demain travailler, avoir un impact sur la biodiversité, que ce soit par des gestions de prairies, que ce soit par des sélections d'arbres natifs, etc., la première chose à faire, c'est récupérer la biodiversité des sols. Sans sol vivant, il y a, c'est un terme qui vient du monde vétérinaire, vous avez dû déjà l'entendre, les concepts de santé unique. Si on veut demain avoir, en tant qu'être humain, une santé équilibrée, donc avoir des aliments d'origine végétale, animale, qui soient en bonne santé, il faut avoir des plantes et des cultures en bonne santé, et ça se fait qu'avec des sols vivants, des sols aussi en bonne santé. Et donc, aménager un potager, aménager un verger, que ce soit dans mon jardin, que ce soit dans une zone collective cédée par la commune, par exemple, nécessite souvent un travail de récupération, hein, de restauration des sols. Et donc, il y a plusieurs options, des options très chères, mécaniques. Et souvent, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire simplement importer des sols agricoles dans des zones urbaines parce que il n'y a plus de vie dans les sols. Et puis, il y a des techniques, on va dire, peut-être plus lentes, qui ne sont peut-être pas liées au cahier des charges de nos élus, mais qui, d'un point de vue écologique, sont quand même beaucoup plus durables. À l'exemple de ce qu'on appelle la phytorémédiation, c'est-à-dire par les plantes récupérer la santé des sols. Hein, donc, il y a des plantes qui ont différentes fonctions et certaines ont la capacité d'accumuler ce qu'on appelle des métaux lourds, par exemple. D'autres ont des capacités de fertiliser, hein, vous connaissez les légumineuses, entre autres de capter l'azote et justement de réduire les nécessités d'engrais de synthèse produits à partir de déverrés de fossiles. Et c'est ce point aussi, peut-être au niveau urbain, même si moi j'ai beaucoup plus d'expérience forcément dans le monde rural, mais cette question de la gestion de la biodiversité, de la santé des sols, c'est souvent un levier qui, à mon avis, n'est pas suffisamment considéré. Ce que je disais souvent, on s'attache et on s'attarde à ce qui est visuel, donc on pense beaucoup aux espèces animales, aux espèces d'arbres, quelles sont les plus adéquates justement par rapport au réseau qui est déjà mis en place, aux infrastructures qui sont déjà en place en monde urbain, sans forcément se soucier déjà de l'état réel des sols sur lesquels on se prétend de mettre en place ces pratiques. Et donc demain, si on souhaite, c'est, j'imagine, le souhait du collectif, c'est justement faire un diagnostic, on va dire, de ce qui existe déjà au niveau individuel, potentialiser et changer avec des groupes. Nous, par exemple, on n'a malheureusement pas des propriétaires vraiment intéressés à investir. On ne peut pas beaucoup travailler dans notre jardin en location. Mais si on a des voisins qui sont intéressés et qu'on, comme on disait tout à l'heure, mettre la main à la pâte et travailler ensemble sur des potagers, sur des mares, sur des haies, travailler ce collectif au niveau de la communauté pour justement qu'on ait ce qu'on appelle des continuités écologiques. Dans la législation, vous avez tous entendu parler, j'imagine, des concepts de trame verte et trame bleue. Et la potentialiser la biodiversité, en fait, c'est justement être capable de recréer ce lien entre les habitats, qu'ils soient naturels ou semi-naturels. Et donc, pour recréer ces couloirs, on va dire, écologiques entre différentes mares, entre différentes haies, pour que justement tous ces services de reproduction, de refuge, de transfert, etc., des espèces, puissent permettre un certain continuum, on va dire, entre mon terrain, celui de mon voisin, mon quartier, l'ensemble de la commune. Et l'impact, justement, est géré par cette notre capacité de lier, on va dire, ces continuums, cette continuité écologique. Et donc, pour conclure, rappeler non seulement que cette continuité au niveau trame verte, donc les haies, les arbres, les espaces verts, les espaces aquatiques, d'autant plus importants pour la gestion de la biodiversité en milieu urbain, donc vers les trames bleues. Il a été mentionné dans l'un des exemples aussi la question de l'horaire d'illumination nocturne. Il y a un concept spécifique. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste, mais ce qu'est la trame noire, justement, en quoi la réduction de la luminosité la nuit peut permettre aussi à toutes ces espèces qu'on ne voit pas justement, mais qui ont besoin de l'obscurité. Mais finalisant sur l'importance de la biodiversité des sols et donc de la santé des sols, quelqu'un avait mentionné les vers de terre, mais en plus des vers de terre, il y a ne serait-ce qu'à l'échelle des bactéries, des champignons, il y a toute une série de pratiques écologiques assez simples de mettre en place pour potentialiser justement la récupération des sols contaminés qui est malheureusement le socle qu'on trouve en zone urbaine et qui nous permettront d'autant plus de potentialiser les actions, on va dire, visuelles de plantation, de potager, de verger qu'on mettra en place ultérieurement. Voilà, merci.